Après les maths, la physique chimie, les SVT, dernière journée de révision du bac scientifique 2017, on prend tout et on synthétise avec les sciences de l'ingénieur. On oublie l'apprentissage par cœur et on favorise une approche pluridisciplinaire des systèmes pour mettre au point une démarche et une réflexion scientifique aboutie autour d'un système. Comment réviser cette matière? Comment comprendre et aborder l'épreuve? Quels sont les points précis qu'attendent les correcteurs de la part des candidats? On vous dit tout en public depuis le studio 105 de la Maison de la Radio pour être certain de décrocher l'épreuve SI avec mention France Culture. Science de l'ingénieur, mention France Culture, c'est notre programme de révision pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour aborder sereinement l'épreuve, les conseils de trois intervenants ne seront pas de trop. Bonjour Hervé Rioux.
Bonjour.
Vous êtes président de l'UPSTI, l'Union des professeurs des sciences et techniques industrielles. Bonjour François Stéphan.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'EPF, École d'ingénieurs à Montpellier. Et bonjour à vous, Grégoire Recchia.
Bonjour.
Vous êtes étudiant en première année à l'ENSA Paris Tech, comme votre magnifique sweatshirt l'indique. C'est l'École nationale supérieure des techniques avancées et encore frais et moulu du bac SPSI que vous avez passé il y a quelques années de ça à peine. Et pour vous passer au grill de leurs questions les plus improbables, les plus retorses et les plus inattendues, nous avons le plaisir d'accueillir les élèves du lycée Le Corbusier à Aubervilliers, accompagnés de leurs professeurs Raphaël Giromini, Valérie Louis, Sarah Lefebvre et Laurent Pascal. Vous pouvez suivre l'émission, évidemment, comme chaque jour, en direct sur le fil Twitter de la méthode scientifique en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors pour commencer, bien les sciences de l'ingénieur sont une matière finalement relativement nouvelle hein, par rapport aux autres matières du bac scientifique. C'est la cinquième année que l'épreuve se déroule. Je le disais en introduction, c'est une matière qui met en fait à profit les enseignements de maths, de physique chimie, de SVT, pour laquelle les attentes sont un peu différentes. Qu'est-ce qu'on cherche précisément à évaluer pendant cette épreuve de sciences de l'ingénieur du baccalauréat scientifique Hervé Rioux?
Écoutez, on cherche à évaluer chez les élèves qui passent le baccalauréat s'ils ont acquis les compétences d'un ingénieur. Et les compétences d'un ingénieur, à travers le programme qu'on leur enseigne, au niveau de la classe de première, de la classe de terminale, s'établissent en quatre items. Il y a analyser un système. Analyser un système, ça veut dire comprendre comment est-ce qu'il est constitué et essayer de décrypter les performances qu'il doit atteindre. Ensuite, il y a modéliser un système. Modéliser, ça veut dire mettre sur un système, un objet industriel, l'ensemble des modèles scientifiques, la plupart, qui permettent, à travers la résolution d'un certain nombre d'équations, de prédire les performances qu'il atteindra. Il y a expérimenter, c'est-à-dire mettre en œuvre des systèmes pour voir si effectivement ils atteignent les performances attendues. Et enfin, il y a communiquer, c'est-à-dire choisir le bon document et la bonne approche argumentaire pour communiquer les résultats à un auditoire.
Cette matière pluridisciplinaire, ça veut dire qu'il faut être bon partout, il faut être bon en maths, en physique chimie et en SVT pour pouvoir être bon en SI?
Alors, je ne sais pas s'il faut être bon partout, si on est clairement cela facilitateur pour avoir une bonne note. Bon, néanmoins, il est clair que c'est sans doute, je pense, dans cette filière sciences de l'ingénieur, que la pluridisciplinarité a tout son sens. C'est-à-dire que les enseignements qui sont faits à côté des sciences de l'ingénieur, je pense aux mathématiques et aux physiques, ont clairement un lien avec ce qui est fait en sciences de l'ingénieur. Et il y a plus du tout cette sectorisation disciplinaire comme il peut y avoir dans d'autres filières de formation. Et c'est du coup complètement à l'esprit du métier d'ingénieur, puisque quand on est ingénieur, on étudie les systèmes qui nous entourent, et les systèmes qui nous entourent ne sont pas monodisciplinaires, ils sont pluridisciplinaires. C'est bien via cette approche que l'on aborde l'enseignement.
C'est-à-dire qu'en fait, à côté des trois autres matières qui sont de la science, on va dire plus théorique, là l'idée c'est vraiment de faire de la science appliquée,
de la science appliquée aux systèmes industriels. Et dans science appliquée, il faut entendre de la mécanique, de l'automatique, de l'informatique, tout ce qui permet aujourd'hui de fabriquer des systèmes qui nous entourent à notre échelle et qui sont aussi des systèmes intelligents.
Voilà. Grégoire Recchia, qu'est-ce qui vous a conduit, vous, à choisir une SPE SI pour votre bac et à vous engager sur cette voie des sciences de l'ingénieur?
Alors, ce qui m'a encouragé donc à choisir donc la SPE SI, c'est donc tout d'abord cet aspect pluridisciplinaire que l'on peut rencontrer donc dans cette filière. Et on y trouve vraiment de tout. Également le fait que ce soit une discipline très appliquée. Alors, je sais qu'en En terminale, on commence à voir des cas un peu plus concrets en physique. On aboutit à des cas, des études de cas qui sont plus concrètes que ce qu'on a fait par le passé dans sa scolarité. Mm-hmm. Mais en SI, justement, le fait qu'il y ait des cas vraiment très très concrets, qui avec des systèmes physiques visuels, qui est généralement beaucoup de documentation autour des sujets ou des exercices que l'on peut rencontrer, que l'on voit vraiment comment un système peut marcher dans sa globalité, c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé dès le début et ce qui m'a motivé à faire ce choix pour la suite de mes études.
Puisque dans le public, on a un certain nombre d'élèves qui sont aussi des élèves de première, quelle est la différence, quel est le pas entre les enseignements en première et les enseignements en terminale?
Disons que le pas principal qu'il y a, moi je dirais, c'est que c'est vraiment un moment où on commence à travailler pour soi. Enfin, moi, j'ai vraiment en fait ressenti qu'on commençait à travailler pour soi, pour moi-même, pour mon avenir et pour mon futur à partir de la terminale. J'ai eu cette prise de conscience là et ça a vraiment le point majeur, la différence majeure avec les cours que j'avais en terminale,
En première, oui. François Stéphane, pour ces étudiants qui commencent, qui terminent leur première année finalement, pour ceux qui sont en première de sciences de l'ingénieur, hein, puisqu'on est vers la fin de l'année scolaire, quels sont, vous, les conseils que vous pourriez donner, des conseils de manière un peu générale, pour appréhender les SI, pour prendre vraiment à bras le corps ce programme et pour pouvoir passer de manière sereine à la phase terminale et à la préparation du bac?
Disons que les sciences de l'ingénieur ont toujours existé dans les écoles d'ingénieurs et elles n'étaient pas enseignées en amont dans les études secondaires. Et c'est une très bonne chose qu'il y ait cette approche mise en place en lycée pour préparer ces futurs étudiants en école d'ingénieur à aborder cette pluridisciplinarité, l'hybridation des techniques, toutes ces choses-là.
Je vous reposais la même question, ça veut dire que, compte tenu de cette pluridisciplinarité, c'est très exigeant par rapport aux autres matières, par rapport aux connaissances, au socle de connaissances en mathématiques, en physique chimie, en SVT.
Oui, les mathématiques sont là en tant qu'outil, ainsi que les lois de la physique, et là on est dans l'application d'une analyse, d'un dimensionnement, d'une conception d'un système. Donc on voit quelque part la finalité de ces enseignements de mathématiques et de sciences physiques.
Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pareil aux étudiants qui sont dans la salle, qui sont en SPSI et qui par exemple sont un peu à la peine sur certains secteurs de physique, sur la mécanique ou sur certains secteurs des mathématiques? Il faut insister là où le bas blesse, ou au contraire il faut prendre un peu de recul et avoir une approche plus globale des sciences de l'ingénieur?
C'est difficile, oui. On ne peut pas faire l'impasse quand on fait des sciences de l'ingénieur sur les mathématiques et sur les lois de la physique. C'est la boîte à outils, il faut la maîtriser, il faut en tous les cas savoir manipuler les notions. Et après, les sciences de l'ingénieur, l'avantage c'est qu'on y voit la finalité, on est dans ce qu'il y a de plus passionnant, de plus appliqué, donc c'est la partie intéressante finalement de l'application de ces mathématiques et ces lois de la physique.
Vous diriez que cette application, c'est le petit supplément d'âme par rapport aux trois autres matières régaliennes entre guillemets du bac scientifique?
Oui, si on veut. Et puis si les jeunes veulent poursuivre encore au-delà, qu'ils aillent dans les écoles d'ingénieurs et là ils verront des choses encore plus complexes et encore plus collectives, parce que là c'est un travail qui est finalement plus individuel, où là on développe un travail plus collectif et avec un intérêt encore croissant.
Hervé Rioux, sur cette question.
Écoutez, de toute manière, il est évident que le programme de mathématiques et le programme de sciences physiques qui est enseigné dans le bac S, SPSI, c'est le même que celui qui est enseigné en spécialité SVT. Néanmoins, et d'ailleurs ça confortera peut-être le choix des élèves qui sont présents avec nous et qui nous écoutent aussi, les études montrent que ceux qui prennent la spécialité sciences de l'ingénieur au bac ont un point de plus en mathématiques, étonnamment.
Plus que les spémates.
Pardon?
Même que les étudiants qui ont pris spémates.
Ouais, absolument, toutes choses égales par ailleurs. Et donc ce qui montre que la pluridisciplinarité prend tout son sens, c'est le fait, comme disait mon collègue, qu'on peut aborder les mathématiques via leur application et montrer finalement, ou du moins répondre à la question à quoi ça sert. Cela prend tout son sens et cela permet aux jeunes d'aborder sereinement les études supérieures dans le domaine des sciences et des technologies.
Du fait du coup de cette spécificité de la matière, on va commencer plutôt par une méthodologie de la révision, puisque les SI empruntent à toutes les matières scientifiques. Comment est-ce qu'on organise bien? Comment est-ce que vous avez procédé, vous, par exemple, Grégoire Recca, pour réviser votre option SI au bac il y a 3 ans?
Tout d'abord, il faut, comme on l'a dit, réviser les matières entre guillemets classiques, que je dirais, comme les mathématiques ou la physique. La compréhension des mathématiques sert d'outil à l'application ensuite pour l'IC, ainsi que les lois physiques. Donc tout d'abord, j'ai commencé par réviser ces deux matières-là principalement, puisque les lois que l'on utilise en physique notamment, on peut les retrouver en IC. Ainsi que certains résultats mathématiques ou théorèmes que l'on peut retrouver ou qui peuvent aider quand on développe un calcul en IC par exemple. Et ensuite, quand je révisais la IC, je faisais évidemment toutes les révisions du cours qui s'imposaient, tout ce que l'on avait vu en cours, tous les systèmes qui avaient été abordés, essayer de revoir à peu près les schémas cinématiques qui les modélisent, les différents actionneurs qui existent dans chacun de ces systèmes. Mais également, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, je pense, c'est de se documenter ailleurs que dans le cours, essayer de trouver d'autres systèmes physiques qui existent, puisqu'il y en a des milliers dans la vie réelle et tout simplement dans notre quotidien, qui essayer de se documenter, de s'intéresser, pas forcément rentrer vraiment dans le détail comme on pourrait voir dans un sujet de SI vraiment très poussé, mais au moins voir dans sa globalité comment ça marche, quels sont les actionneurs, quels sont les rôles de système, qu'est-ce qui est attendu, voilà.
Hervé Rioux, vos conseils, vous, pour bien organiser ces révisions pour l'épreuve de SI?
Se tester sur les anciens sujets, puisque les sujets en sciences de l'ingénieur, ils ont vraiment une approche très très spécifique à la discipline pour aborder les systèmes. Ce n'est pas du tout un jeu de questions-réponses qui sont déconnectées les uns les autres. Les questions qui s'enchaînent ont un ordre logique. On part toujours du global pour aborder un système dans sa complexité, dans sa globalité, pour aller de plus en plus vers des questions de plus en plus pointues, de plus en plus spécifiques et attachées à un champ disciplinaire. Donc je pense que pour se préparer correctement à bien passer l'épreuve de sciences de l'ingénieur, il faut s'appuyer sur les anciens sujets pour comprendre cet état d'esprit.
Donc même refaire des exercices qu'on a déjà fait, qu'on a déjà bien réussi, refaire un exercice, ça a du sens.
Absolument, cela a du sens, et je pense que là aussi les élèves qui sont en terminale peuvent s'appuyer sur l'aide de leur professeur. Leur professeur en connaît leur investissement pour faire réussir leurs élèves. Ils sont là pour les aider, pour leur donner peut-être d'autres exercices si jamais ceux que les jeunes en question ont savent déjà les faire. Donc appuyons-nous sur les professeurs pour nous aider à préparer cette épreuve.
Est-ce que ça vaut le coup, par exemple, comme souvent, d'aller piocher dans les annales, même si elles ne sont pas très nombreuses puisque l'épreuve est assez jeune? Est-ce que ça a du sens d'aller piocher dans les...
Bien sûr. Moi, je conseille vraiment à le faire pour, encore une fois, voir l'état d'esprit de cette manière très particulière de rédiger les sujets, qui est toujours pilotée par un cahier des charges. C'est-à-dire, on cherche à vérifier des performances, et après, les différentes parties qui découlent de la rédaction du sujet nous amènent à vérifier telle ou telle performance du cahier des charges, et ils font appel en fonction des performances à tel ou tel champ disciplinaire, mécanique, automatique ou informatique.
Sur la méthodologie de la révision à proprement parler, les SI, contrairement aux autres matières, vous diriez que c'est une matière où, par exemple, apprendre par cœur, ça n'a pas de sens?
Non, ça n'a pas de sens, clairement, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, on le voit à travers les sujets qui sont déjà tombés. Ce n'est pas parce qu'on connaît par cœur une loi théorique qu'on saura parfaitement l'appliquer, d'une part, et puis parfaitement l'appliquer au cas que l'on nous demande d'étudier, d'autre part. Donc, moi, je pense que les sciences de l'ingénieur, d'ailleurs, le métier d'ingénieur, c'est vraiment être capable de savoir à quel moment utiliser telle formule, et pas tant de... pour la maîtrise de la formule en soi, mais de savoir en quoi elle est utile pour la situation à laquelle je me confronte.
D'ailleurs, il faut préciser que les calculatrices sont autorisées, qu'on peut rentrer les fonctions dans les calculatrices, donc on n'a pas besoin d'avoir tout mémorisé.
Exactement, oui. Voilà, c'est bien le fait, la preuve par là même qu'il n'y a pas besoin de tout mémoriser, mais au contraire, il faut avoir cet état d'esprit de savoir quelle approche utiliser, quel théorème utiliser.
Quel savoir appliquer à proprement parler.
Absolument.
François Stéphane?
Moi, je découvre ces sujets parce que j'y suis pas habitué. Et je les trouve hyper intéressants, très méthodologiques en fait. Donc, ça rejoint ce qui a pu être dit. C'est-à-dire qu'apprendre par cœur, ça ne sert pas à grand-chose. C'est une méthode qu'il faut acquérir. C'est aussi une analyse physique, comprendre la physique du système qu'on a en face de soi. Donc c'est par l'entraînement sur différents systèmes qu'on va finalement arriver à s'en sortir.
Et on va prendre tout à l'heure, un peu plus tard dans l'émission, un sujet concret pour voir comment l'aborder, et puis on va faire un peu de méthodologie aussi de l'épreuve à proprement parler, pour rester encore quelques instants dans le champ des révisions. En revanche, faire des bonnes fiches, des fiches, c'est important, ça permet de structurer les savoirs, de savoir où piocher face à tel type de problème.
Alors là, j'ai pas de réponse unique, ça dépend vraiment l'attitude de chaque élève. Chaque élève a sa manière de mémoriser, de retenir les choses que l'on lui enseigne. Si pour certains, écrire des fiches, ça leur permet de bien retenir, bah, je conseille effectivement d'utiliser cette méthode. Pour d'autres, ça n'est pas forcément la peine, puisque pour eux, les fiches sont parfois inutiles. Donc c'est vraiment cas par cas. Et j'ai envie de dire que quand on est en terminale, on est suffisamment grand et avancé dans l'âge pour savoir finalement quelle méthode pédagogique nous est utile et est adaptée à notre manière d'apprendre les choses. Et il faut se responsabiliser et mettre en œuvre celle qui nous correspond.
Grégoire Requia, fiche ou pas fiche?
Alors moi, oui, justement, je ne faisais quasiment pas de fiche. Et après, voilà, c'est par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est vrai que le par cœur, parfois, c'est indispensable. Mais dans une matière comme les sciences de l'ingénieur, le par cœur, c'est pas quelque chose de fondamentalement...
C'est pas fondamental, c'est pas structurant.
Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est pas fondamental. C'est plus surtout savoir comment appliquer et les formules que l'on voit, les théorèmes que l'on a pu apprendre à un cas concret. Par exemple, c'est ce que je fais actuellement à l'école à l'ENSA Paritech dans les cours que je suis. Dans les examens, on nous demande très très rarement du par cœur aux examens, de ressortir des questions de cours tout bêtement. C'est plus vraiment de l'application, voir si on a compris le cours et si on sait l'utiliser pour notre carrière future.
François Stéphane.
Je ne sais pas s'il faut faire des fiches, mais il faut pas être passif. Il faut être actif. Ce que je dis souvent, c'est qu'on n'apprend pas à jouer au tennis en regardant un match Federer contre Nadal.
Oui, dites pas ça, vous savez que la grande tentation pendant les révisions du bac, c'est Roland Garros, c'est que ça peut distraire beaucoup de lycéens.
Voilà. Bon, et même pour le tennis, c'est pas suffisant. Il faut s'y mettre, donc il faut prendre un crayon, il faut pas regarder un corrigé, il faut s'y confronter, il faut agir. Quelque part.
Oui, Avery.
Oui, juste pour aller dans le même sens, moi qui connais un peu l'arrière de la scène, à savoir comment sont corrigées les copies, quel outil on utilise pour donner des points aux copies, il est clair que les méthodes, la méthodologie est tout aussi importante que le résultat final. Quelqu'un qui applique correctement une approche, ne serait-ce que pour appliquer un isolement pour faire un principe fondamental de la dynamique, s'il met correctement en place l'approche de ce principe, il aura... la plupart des points, si ce n'est la totalité, même si à la fin le résultat numériquement est mauvais, parce que c'est l'approche qui
D'accord.
compte.
C'est vraiment le détail de la méthodologie pour parvenir au résultat, même si le résultat est pas tout à fait exact. Juste une dernière question, et puis on va demander aux lycéens présents s'ils ont aussi des questions sur cette méthodologie de la révision. Qu'est-ce qui se passe si on bloque sur un exercice en particulier, s'il y a vraiment quelque chose qui marche pas? Comment trouver un autre angle d'approche? Il faut laisser tomber, il faut regarder.
Le jour du bac, vous voulez dire?
Non, dans la révision.
Dans la révision, il faut absolument se faire aider par quelqu'un qui arrive avec les mots qui nous conviennent à nous expliquer la difficulté. Hein. Si c'est pas le prof, il faut le demander à un copain.
Travailler en binôme.
Alors typiquement, la classe de sciences de l'ingénieur est sans doute la classe dans laquelle on travaille en groupe. En mode projet, puisque d'ailleurs il y a 2 heures de projet par semaine, et donc il faut s'appuyer sur les liens d'amitié que l'on s'est fait au cours de cette année de formation pour demander de l'aide tout simplement à nos petits copains, eux qui ont peut-être compris.
Éviter l'isolement. Des Absolument. Questions de la part dans la salle, oui. Bonjour.
Ying, bonjour.
Bonjour Ying.
En fait, ma question n'est pas vraiment sur la méthodologie, donc excusez-moi.
Mais c'est pas grave, allez-y.
En fait, ce serait surtout pour demander, en supposant qu'on réussit parfaitement le parcours pour devenir ingénieur, est-ce qu'on ne débouchera que sur un métier d'ingénieur ou bien on peut avoir d'autres boucher.
Qui veut? François Stéphane. Vaste question.
Vaste question. Et quand on a un diplôme de bac scientifique option SI, il n'y a pas que des études d'ingénieur qui s'ouvrent à vous. Hein. Il y a tout un panel d'études de médecine, dans des écoles de management, dans des écoles d'ingénieurs. Après, bon, à partir du moment où on a choisi les sciences de l'ingénieur, c'est vrai que naturellement, c'est qu'on a une appétence, une envie de poursuivre sur ces sciences de l'ingénieur. Donc, c'est vrai que plus naturellement, on s'oriente vers des écoles d'ingénieurs. Mais il n'y a pas que, bien entendu.
Oui, et moi qui suis aussi professeur en classe préparatoire, qui donc accueille des élèves qui viennent du bac S, SI pour certains, je vois... la poursuite d'études qu'ils font et les métiers qu'ils ont aujourd'hui, clairement, je ne saurais pas faire une seule catégorie de métiers vers lesquels ils se prédestinent. Et aujourd'hui, j'ai des exemples de métiers qu'ils prennent qui ne correspondent pas forcément de manière évidente à leurs études initiales en sciences de l'ingénieur, puisqu'ils sont plutôt dans des métiers de conseil, de banque aussi, et d'assurance. Voilà vers quoi mène cette formation-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on forme des gens qui ont, moi, ce que j'appelle beaucoup du BSP, c'est-à-dire du bon sens pratique. Autrement dit, face à un problème qui, a priori, peut être compliqué, ils savent le dégrossir, ils savent en trouver une solution qui est plus ou moins raisonnable. Voilà ce que l'on recherche souvent dans des métiers, y compris autres qu'ingénieurs, en termes d'embauche.
Les conséquences de cette approche pluridisciplinaire que nous
avons. Approche globale des systèmes.
Je crois que nous avons une question d'un des enseignants. Bonjour.
Raphaël Gérominion, enseignant de mathématiques. Alors, juste une précision sur les calculatrices. À compter de l'année prochaine, les élèves n'auront plus accès à la mémoire de leur calculatrice. Donc, toutes les formules qu'ils auront rentrées, de toute façon, ils pourront plus s'en servir pendant l'épreuve du bac. Et un peu dans ce sens-là, donc, on voit vraiment que l'aspect où la calculatrice va devenir vraiment l'outil pour numérique uniquement. Comment est-ce que, dans l'épreuve de SI, est évaluée la rédaction? Parce que le travers, en tout cas en mathématiques, des élèves, c'est de nous balancer une série de calculs, voir uniquement les résultats, sans aucun calcul, pour voir. Et je me demandais comment vous voyez une copie un peu type, une copie modèle dans l'épreuve de SI.
Alors, c'est ce qui nous fait basculer dans la deuxième partie, qui est la méthodologie de l'épreuve, mais c'est une question effectivement importante de la part de la rédaction.
On dit souvent de manière un peu caricaturale qu'une copie bien rédigée, c'est une copie dans laquelle même quelqu'un qui n'est pas expert en sciences de l'ingénieur peut comprendre ce qui est écrit. Donc ça veut dire que ça ne suffit pas en sciences de l'ingénieur d'aligner des équations. Il faut au contraire utiliser des éléments rédactionnels du français pour expliquer l'esprit dans lequel on cherche à mettre en place une méthode. Voilà. La raison que j'ai évoquée tout à l'heure, à savoir que ce qui compte, c'est bien la méthode que l'on cherche à appliquer. Et appliquer une méthode, c'est pas simplement donner le résultat qui est le résultat d'une technique de calcul. C'est bien expliquer en quoi on fait tel isolement mécanique et pourquoi est-ce qu'on applique tel théorème ou tel principe en tel point, ou alors en automatique, pourquoi est-ce qu'on est amené à identifier un modèle du premier ordre, du deuxième ordre face à une courbe. Voilà. On argumente avec un tout un tas d'éléments scientifiques, mais qui ne peuvent être compris que si on a beaucoup d'argumentations littéraires associées à quelques équations présentes dans les réponses.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Et nous poursuivons nos révisions des sciences de l'ingénieur au cours de cette semaine qui est donc consacrée dans la méthode scientifique et dans plusieurs autres émissions de France Culture aux révisions du bac 2017. Nous allons, maintenant qu'on a vu un peu comment bien se préparer en amont de l'épreuve du bac, on va parler un peu de l'épreuve en elle-même. Comment elle se décompose, comment elle se présente l'épreuve du bac SI Averyou?
Eh bien écoutez, elle se présente classiquement en trois documents. Un qui présente le système et qui contient le questionnement que l'on pose au candidat. Un autre document que l'on appelle un dossier technique, c'est-à-dire un ensemble de feuilles qui contient l'ensemble des informations techniques qu'il est nécessaire de connaître pour répondre aux questions. Mm-hmm. Et puis, de temps en temps, il y a aussi un document réponse qui nous permet, pour une question qui nécessite un élément graphique, de s'appuyer dessus pour y répondre. Et dans le premier document que j'évoquais, à savoir le texte qui contient le questionnement, vous aurez toujours au début une présentation globale du système. Là où on peut l'utiliser, le contexte dans lequel on peut l'utiliser. Suite à cela, il y aura un cahier des charges qui traduira dans un langage de type cahier des charges les performances attendues pour ce système. Et derrière, se déclineront partie par partie l'ensemble des questions que l'on va poser systématiquement pour chacune de ces parties avec un lien vis-à-vis du cahier des charges que j'évoquais à l'instant.
Ça, c'est pour la partie écrite. Il y a une partie orale?
Il y a une partie orale. Donc là, c'est à travers un projet. Donc en groupe, on fait un projet pluridisciplinaire qui se fait à travers 2 heures chaque semaine, donc de manière hebdomadaire. Et puis à la fin de l'année, on a une soutenance orale face à un jury extérieur. Le professeur aussi, au cours de l'année, est amené à noter son élève, ses élèves, sur ce projet.
Alors, question toute simple, c'est le jour J, le sujet tombe sur la table, qu'est-ce que je fais?
Alors déjà, il ne faut pas paniquer.
Ça vaut pour toutes les matières.
Il faut se dire que si a priori on est arrivé à la fin de ses études, on n'a pas fait tout ça pour rien et que nos professeurs ont été de bons conseils. Donc face au sujet, on a 4 heures devant nous. Moi, ce que je conseillerais, c'est de lire ce paragraphe introductif qui présente dans sa globalité le système et après de feuilleter rapidement les différentes parties pour voir a priori vers quel champ disciplinaire elles sont associées. Puisqu'on a toujours un peu plus d'affinité progresser à travers pour un ou un autre champ disciplinaire. Mmh. Et peut-être que si jamais on est en panne sèche au cours de ces 4 heures de sujet, on pourra basculer vers cette partie qui nous semblera plus utile. Ce qu'il faut néanmoins savoir, c'est que les toutes premières questions dans la rédaction des sujets, hein, c'est le cahier des charges de rédaction des poseurs de sujets, les toutes premières questions sont toujours là pour mettre en confiance le candidat, on dit ça comme cela. C'est-à-dire que a priori, elles sont toujours des questions faciles qui permettent de se rendre compte qu'on aborde sereinement l'épreuve. Donc, il ne faut pas commencer par les questions qui sont au milieu ou à la fin du sujet. Il faut bien commencer par ces toutes premières questions qui sont a priori de difficulté plus faible que les autres.
Une question toute bête, est-ce qu'il faut traiter les sujets dans l'ordre dans lequel ils sont présentés ou est-ce qu'on peut commencer par la fin? Est-ce qu'on peut traiter ça dans le désordre? Est-ce qu'on peut commencer en se disant « Ah ça, je sais très bien faire, j'en suis sûr, donc c'est plus facile » ou est-ce qu'au contraire, il faut commencer par l'endroit où on éprouve a priori le plus de difficultés?
C'est vraiment selon la psychologie de chacun. Si effectivement ça nous rassure de commencer par des parties que l'on sait parfaitement maîtriser, il faut pas hésiter et y aller. Si par contre certains sont très méthodiques, sont vraiment à l'aise et confiants dans leur niveau, à ce moment-là il faut faire linéairement le sujet et a priori ça ne posera pas de difficultés. Question méthodologique néanmoins, souvent il faut savoir que on a un défaut, les élèves, ils ont un défaut qui est de ne se concentrer que sur le libellé de la question. Et ils passent très peu de temps, voire pas du tout, sur les informations qui précèdent la question. Ce qui fait que la question peut leur paraître un peu surréaliste en termes de difficulté, sachant que la réponse finalement est simplement présente dans le texte qui précède la question. Donc moi je conseille de bien lire ces éléments de rédaction qui sont juste avant la question, d'une part. Et d'autre part, il faut aussi savoir qu'un certain nombre de réponses à des questions sont situées dans les questions qui suivent, parce que tout cela est très linéaire, cela s'enchaîne. Donc si vraiment vous avez quelque chose qui vous bloque, hein, d'un point de vue scientifique ou argumentaire, dans une question, il faut peut-être regarder ce qui se passe juste après pour que ça puisse être un élément débloquant.
Mais est-ce que ça ne plaide pas justement pour éviter de traiter les questions dans le désordre? Puisque s'il y a une sorte d'enchaînement logique entre la tâche numéro 1 jusqu'à la tâche numéro 5, si on commence par la tâche numéro 3, est-ce qu'on risque pas d'être un peu perdu dans le déroulé de l'épreuve?
Mais ce que je dis, c'est vraiment si on est bloqué, à un moment donné, voilà quelques pistes qui permettent de s'en sortir très simplement. C'est vraiment dans le cas où on est bloqué.
Est-ce qu'il y a, on va dire, d'une part, quelques grands points qu'il faut vraiment garder en tête tout au long de l'épreuve et d'autre part dans un deuxième temps des choses qu'il faut éviter à tout prix? Alors, il y a eu des grands points, je pense par exemple aux ordres de grandeur, à des schémas très clairs et pas dans un timbre-poste, quelques grandes lignes comme ça qu'il faut vraiment se noter, être sûr.
Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que à l'issue de l'épreuve, il y aura des correcteurs de cette épreuve qui ont plusieurs centaines de copies à corriger, donc tout travail qui facilite la correction est apprécié. Ce qui fait que si dans sa copie on présente clairement les choses, en séparant question par question, en mettant au début de chaque question le numéro de la question, en encadrant le résultat, en ayant une écriture qui est parfaitement lisible, cela est apprécié par les correcteurs. Et je pense que c'est vers cette tendance qu'il faut s'orienter. Il ne faut pas simplement croire que quand on répond à une question, ce qu'on attend de nous, c'est le résultat. Comme j'expliquais tout à l'heure, il faut argumenter, il faut passer du temps pour expliquer sa démarche. C'est presque tout aussi important que le simple résultat final. Il faut aussi avoir cela en tête. Qu'est-ce que l'on cherche à évaluer chez moi lorsque je fais une épreuve de sciences de l'ingénieur?
Ce qui est donc important, on va le redire, parce que c'est vraiment le cœur de l'épreuve et ce qu'attendent les correcteurs, c'est vraiment d'établir un raisonnement, de faire des choix, de prendre des décisions, et plus que de juste livrer un résultat, comme ça pourrait être le cas dans une
épreuve de mathématiques. On peut très bien avoir une question qui peut paraître surprenante, parce qu'on imagine qu'il y a plusieurs types de réponses possibles, et en effet, c'est le cas. Il y a plusieurs réponses possibles, parce qu'il n'y a pas de solution unique quand on est dans la vraie vie. Et ce que l'on cherche à vérifier chez le candidat, c'est de savoir s'il est capable de prendre un point de vue et de l'argumenter. Et peut-être qu'un autre candidat prendra un autre point de vue avec un autre type d'argumentaire et il aura le premier candidat autant de points que le deuxième, même si les réponses sont complètement différentes.
Ce qu'il faut éviter à tout prix en revanche, des calculs
à plus n'en finir, d'une part, ça c'est vraiment pas ce que l'on cherche à avoir. Et puis aussi une qualité rédactionnelle qui est au bord de l'amateurisme. Enfin, faut vraiment imaginer que derrière, il y a des hommes, c'est-à-dire des êtres humains qui sont là à lire vos copies. Et si c'est un torchon qu'ils ont à lire, c'est tout sauf raisonnable.
Ça, on le dit et on va le répéter.
Là, c'est vrai partout.
Toutes les épreuves pour la SVT, pour la physique chimie.
Et quand on fait des schémas, parce qu'en sciences de l'ingénieur, on est de temps en temps amené à faire des schémas. Et là, il faut aussi avoir beaucoup de soin sur ces schémas-là. C'est-à-dire que quand on a des droite à tracer, bon, faut prendre la règle et non pas le faire à main levée, sinon c'est un, un peu aléatoire le tracé de ligne droite et puis respecter les consignes de dessin classique que les professeurs peuvent fournir.
Sur les cinq tâches, quelque chose aussi d'important, c'est que c'est la synthèse finale. Il faut là aussi, même si on n'a pas réussi à répondre à tous les exercices, vraiment apporter un soin, une attention particulière.
Absolument.
À la synthèse finale.
Parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, donc il y a différentes parties dans un sujet, et chaque partie a pour objectif de vérifier une performance du cahier des charges. D'ailleurs, en début de chaque partie, souvent, il est indiqué dans la rédaction du sujet l'objectif qu'on cherche à atteindre. Et on verra qu'à la fin de chaque partie, on demande au candidat, eh bien, de revenir sur le résultat de son calcul et de vérifier, ou du moins de comparer l'écart qu'il peut y avoir entre son résultat et celui qui est attendu dans le cahier des charges. La notion d'écart est une notion qui est absolument indispensable à comprendre et à bien intégrer dans le programme des sciences de l'ingénieur, puisque le programme a été établi sur l'idée qu'il y a dans l'approche d'ingénierie trois notions. Le système que l'on souhaite, je rêve de quelque chose, bon, je veux atteindre 130 km/h sur l'autoroute pour une voiture. Il y a le système que l'on a qui atteint telle performance, et puis il y a le système qu'on est capable de modéliser. Donc ça fait trois types de systèmes. Et l'approche que l'on aborde d'un point de vue pédagogique, c'est d'être capable de quantifier les performances atteintes par chacun de ces trois systèmes, mais aussi les écarts qu'il peut y avoir entre ces trois-là. C'est donc ce que l'on demande aux candidats d'aborder, cette notion d'écart, à la fin de chaque partie du sujet de sciences de l'ingénieur.
Donc c'est bien, c'est-à-dire que vérifier le cœur du sujet, c'est bien de vérifier les performances d'un système par l'écart qu'il peut y avoir entre le cahier des charges initial qui est proposé dans l'énoncé et les réponses expérimentales.
De ce système, soit via effectivement l'analyse de réponses expérimentales, soit l'analyse de résultats de simulation à travers un certain nombre d'équations. Via les modèles que l'on peut mettre sur un système.
Grégoire Ekia.
Oui, par rapport à cette notion d'écart, oui, je tenais à dire que c'était vraiment fondamental en sciences de l'ingénieur, puisque faut toujours faire preuve d'esprit critique lorsque l'on parle d'un système. Et du coup, cette notion d'écart est fondamentale. On sait que sur un système, il y a la théorie et le système va, dans 99% des cas, pas tout à fait correspondre à la théorie initiale. Il y aura toujours un petit écart. Par exemple, pour la voiture on veut qu'elle roule à 130 km/h sur l'autoroute, si on se rend compte qu'elle a une vitesse qui est comprise entre 109,7 km/h et 130,5, on peut considérer que ça va, la voiture remplit son cahier des charges. Par contre, sur des systèmes un peu plus complexes, un peu plus précis, par exemple, je pense à des robots pour l'aide à la chirurgie, par exemple, ou des robots qui utilisent des technologies laser. Faire une erreur de l'ordre du centimètre, c'est pas acceptable, en fait. Donc, il faut toujours garder à l'esprit, faut toujours faire preuve d'esprit critique et toujours garder à l'esprit quel système on est en train d'étudier. Est-ce que c'est un système très précis? Quel niveau d'écart on peut tolérer, etc. C'est pour ça que cette notion d'écart est toujours fondamentale, en effet.
Surveiller les ordres de grandeur,
voilà,
c'est ce que vous dites.
Exactement, tout à fait.
Les ordres de grandeur, c'est rédhibitoire dans une copie. De voir que, je sais pas moi, le poids d'une voiture, ce serait 3 grammes, quoi. Typiquement, voilà, bon.
Et alors, là, c'est manifeste,
mais
ça peut être un peu plus fin que ça.
mais sauf que ce genre de résultat, on le voit, y compris pour les études ultérieures après le bac. Mais voilà, en fait, il faut faire très attention à cette notion d'ordre de grandeur. C'est absolument indispensable. Dans le contexte de l'objet étudié.
Peut-être une question aussi, un mot, et puis on va demander aux lycéens ici présents s'ils ont d'autres questions sur la méthodologie de l'épreuve à proprement parler, ou sur l'épreuve de SI en tant que telle. Un point sur l'épreuve orale, comment est-ce qu'elle se déroule? Qu'est-ce qu'attendent les examinateurs?
Alors, ce qu'attendent les examinateurs, c'est que l'on soit capable de mettre cette approche écart, type d'écart, cette approche modélisation de système, cette approche de quantification des performances, pour le coup expérimentale, via un travail de groupe. Et puis, donc, au cours de l'année, déjà le professeur de sciences de l'ingénieur est amené à noter l'investissement de son élève dans ce travail. Et puis, à la fin de l'année, il y a un jury extérieur qui est constitué d'un professeur de sciences de l'ingénieur et aussi d'un professeur d'une autre discipline. C'est vraiment un travail pluridisciplinaire, j'insiste. Et donc le jury extérieur vient et vérifie à travers une grille de compétences s'il atteint cet objectif. Donc cela se fait à travers la présentation orale, un exposé oral de la part du candidat, et puis derrière suivent un certain nombre de questions posées par le jury.
Deux petites questions rapides. Je suis dans l'un des exercices, au milieu de l'épreuve, et à un moment donné, je me rends compte que mes calculs tombent pas juste, justement, que les ordres de grandeur sont pas bons, qu'il y a quelque chose qui a pas marché. Le temps passe, petit coup de panique. J'arrête. Est-ce que je laisse quand même le raisonnement jusqu'à ce point-là en disant, en signifiant que je me rends compte que c'est faux, mais je laisse une part de raisonnement? Comment est-ce que je passe à autre chose?
Non, c'est exactement ça. Si vraiment on est bloqué et qu'on trouve pas d'où vient l'erreur, moi je conseillerais d'indiquer dans sa copie que clairement on observe qu'il y a une erreur. Compte tenu de l'ordre de grandeur du résultat, typiquement. Il y a un moyen souvent classique de vérifier si on est correct au moins au niveau de la formule ou pas, c'est de vérifier son homogénéité. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand on a l'expression d'une vitesse, par exemple, que l'on vérifie bien que l'unité de l'expression scientifique que l'on a correspond à une unité de vitesse. Quand on est face à du poids, ça correspond à du poids, etc. Mm-hmm. Donc on vérifie rapidement l'homogénéité de ces formules. Et puis après, il est vrai que souvent, utiliser une calculatrice, ça peut paraître simple, mais en même temps, c'est très compliqué. Et moi, je constate qu'il y a de plus nombreux cas d'erreurs de calcul lorsqu'on dispose d'une calculatrice que lorsqu'on en fait des calculs à la main, à la tête, même grossièrement. Donc, si on a un résultat à l'issue d'un calcul fait à la calculatrice, je conseillerais aussi de dégrossir le calcul avec quelques approximations très simples. Hein, 3 fois 3, plutôt que faire 9, si vous faites à peu près 10. Bon, vous faites des approximations juste pour voir si vous êtes dans le bon ordre de grandeur par rapport au résultat que vous avez cité.
Et un mot aussi, une petite remarque sur le fait que il faut toujours éviter de laisser une réponse se finir par une application numérique, mais au contraire faire une application numérique et la remettre en contexte.
Absolument, et d'ailleurs, les questions dans le sujet amènent à faire cela. C'est-à-dire que en sciences de l'ingénieur, on se fiche de savoir si la vitesse vaut 10 mètres par seconde, c'est pas ça. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir si 10 mètres par seconde correspond à ce qui est attendu dans le cahier des charges ou alors si on en est loin. Donc il faut toujours remettre dans le contexte le résultat numérique que l'on obtient.
Une question, oui.
Enfin, après le bac, est-ce que les matières littéraires sont vraiment importantes? Enfin, parce que là, on a beaucoup de matières littéraires, est-ce que ça va être vraiment être important après le bac?
Alors, plus que les matières littéraires, peut-être qu'on peut poser la question de la capacité de rédaction, de synthèse, de l'expression écrite en règle générale, mais aussi des matières littéraires.
Alors, ça dépend dans quelle formation on s'oriente. Si on va dans des formations scientifiques et technologiques, les matières littéraires change un peu dans l'esprit de ce qui est enseigné au niveau de la classe de première, de la classe de terminale, puisque elles sont orientées vers l'aspect communication très fort. Typiquement, lorsque l'on étudie la langue vivante comme l'anglais, ne serait-ce qu'en classe préparatoire pour préparer l'entrée aux écoles d'ingénieurs, l'anglais que l'on enseigne est un anglais lié à la communication. Et on peut se permettre de faire quelques fautes grammaticales ou de syntaxe. Ce n'est pas ça qui est important, c'est d'être capable, encore une fois, d'argumenter dans une langue étrangère sur un point de vue donné. J'observe du reste au passage que lorsque des ingénieurs sont amenés dans leur métier à travailler avec des personnes qui sont dans des pays qui ne sont pas anglophones, chacun parle un anglais qui n'est pas celui de Shakespeare, chacun fait des fautes, mais pourtant, tout le monde se comprend. Et c'est bien ça qui est important.
On a à peu près 20% des enseignements dans les écoles d'ingénieurs qui sont des enseignements de sciences humaines et sociales. Donc, qui est quelque part un prolongement des formations littéraires. Alors, on fait pas de la littérature comme on peut en faire en première, mais des cours d'ouverture, de géopolitique, de droit, etc., sont des cours qui sont enseignés en école d'ingénieurs où on s'appuie sur, sur ce qu'on a pu, sur de l'ouverture sur le monde extérieur.
Guillaume Réquillard.
Oui, tout à fait.
Grégoire, pardon, excusez-moi. Grégoire.
Oui, tout à fait. Même que ce soit en prépa ou même à l'école actuellement, il y a toujours ces disciplines qui sont considérées comme non scientifiques, mais, par exemple, je pense à la culture ou alors des cours d'économie encore que j'ai actuellement toujours à l'école. Mais même en prépa, il y a toujours ces cours de langue ou littéraire qui sont quand même assez importants. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait, ce sont des disciplines en prépa qui ont très peu de poids pendant l'année, j'entends au niveau horaire. Mais lorsque vous arrivez au concours, ce sont des matières qui comptent énormément, dont les coefficients sont très importants. Donc, c'est paradoxalement, ils n'ont pas énormément de poids pendant l'année au niveau horaire, mais elles sont non négligeables au niveau des concours. Donc, il y a ce paradoxe-là toujours.
Voilà. Une question encore. Bonjour,
Jonathan. Bonjour, je m'appelle Tarek.
Bonjour, Tarek.
Je voulais savoir s'il fallait réviser vraiment toute l'année et être vraiment toute l'année à fond pour pouvoir viser une mention, ou alors on pourrait réviser vers la fin, on va dire un ou deux mois, mais assez
de manière intensive.
Assez intensive, voilà.
Alors, j'ai envie de dire, ça dépend de l'objectif que l'on cherche. Très objectivement, et pour répondre directement à la question, si vous commencez sérieusement vos révisions quelques mois avant l'épreuve, je pense que vous allez très bien réussir. Mais je ne pense pas que ce soit stratégique d'aborder le problème de ce côté, puisque le bac ne doit pas être une finalité. Derrière, il y a des poursuites d'études. Et dans les poursuites d'études, vous allez passer, vous qui êtes en première, donc l'année prochaine, vous allez passer via un système d'admission dans l'enseignement supérieur qui s'appelle admission post-bac, dans lequel vous allez demander d'aller dans telle ou telle formation. Et ces formations en question vont dire si oui ou non elles vous acceptent. Et pour cela, elles vont s'appuyer sur cinq éléments qui sont vos trois bulletins des classes de première et de vos deux bulletins des classes de terminale. Et ce que l'on cherche à travers la lecture de vos bulletins scolaires, c'est voir si effectivement vous êtes un élève sérieux. Et si vous montrez à travers vos résultats scolaires et les appréciations que les professeurs portent à votre sujet, qu'effectivement vous travaillez tout au long de l'année, vous avez bien plus de chances d'intégrer la formation de vos rêves que le cas contraire.
Donc la régularité. François Stéphane.
Je reprends l'exemple de Raphaël Nadal. Hein. Pour préparer Roland-Garros, il s'entraîne pas 10 jours avant. Il s'entraîne toute l'année, régulièrement. Et c'est par cette régularité qu'on va acquérir des automatismes, des connaissances, qu'on va les approfondir, qu'on va les mobiliser, savoir les mobiliser, etc.
Ladies and gentlemen, esteemed colleagues, I would like to thank you all for joining us this afternoon for the defense of our latest thesis. We would like to take this opportunity to set the record straight and present a new formula, algorithmic in its execution.
Biochemical equation discovered by a process of elimination. Patient identifies classification of analysis. Panelists got struck by paralysis, and as of our most recent information, causality is still inconclusive. Investigation making some degree of headway through particle acceleration. Deviation is apparent in relation to the phase of rotation in the hydron, the Geiger, hydron collider. Schematic graphics are attached in the appendix, which lends itself to further expo. Turn the page 53 and comb through the work of Dr. Siemens on plasticity of bones. Do note, no quotes on the following. High dose of the isotope spotted in a space-time cluster with projected arc trajectory that indicates collision is a strong possibility. This just in, apparently the crucial core reactor has been sabotaged. Suspect the culprits are a crew of scratch bandits in the quantum department. No one in the field to be algorithmic with the execution.
Algorithmic with the execution.
Algorithmic with the execution. To keep the universe in unison.
Strict schooling with the chalk finger. Tip lock picking knowledge for y'all, the thought giver. Palm grip hard on a Darwin's origin. The species about to hit the porcelain. Darkinian, reptilian, miracle compound, bar sound. You feel it when they blow up like helium or silicon breast. Or the beautiful cosmos upon its first breath. Born before solitary cells slid a monetary wealth grip than otherwise well-equipped settlement. Intelligent enough to see the mysteries and discuss thus mathematically. Algorithmic with the execution.
Algorithmic with the execution.
Algorithmic with the execution.
To keep the universe in unison.
Voilà, algorithmique de Scratch Bandit Crew pour réviser les sciences de l'ingénieur dans cette semaine consacrée aux révisions du bac, de différents bacs sur France Culture. Hein. On révise l'histoire, la philo le matin, la littérature l'après-midi et les sciences tout au long de la semaine dans la méthode scientifique. Aujourd'hui donc, ce sont les SI, les sciences de l'ingénieur. On en parle avec Hervé Rioux qui est président de l'UPSTI, avec François Stéphane qui est directeur de l'EPF et Grégoire Requia qui est étudiant en première année à l'ENSA ParisTech. Alors dans cette dernière partie et dans les quelques minutes qui nous restent, on va se pencher sur un cas concret, l'épreuve de l'an dernier en métropole. Triode, véhicule à trois roues pour nettoyer la ville. En quoi consistait cette épreuve, Hervé Rioux?
Cette épreuve consistait à vérifier un certain nombre de performances de cet objet. Donc c'est un moyen de transport motorisé qui est un peu comme un scooter électrique avec deux roues à l'avant. Et l'épreuve amenait à vérifier donc un certain nombre de performances liées à l'autonomie, d'une part, liées à, au respect des règles écologiques, à la sécurité aussi, à la vérification également que l'effort que doit exercer le pilote pour soulever son scooter ne soit pas trop élevé, et puis enfin à la vérification de la distance parcourue par rapport à l'autonomie de la batterie.
Quelles sont les difficultés que présentait cette épreuve de l'année dernière selon vous?
Alors n'était pas différente de celle des autres sujets. Et les difficultés que moi j'analyse sont toujours liées au fait qu'il faut remettre en contexte les questions que l'on nous pose. C'est-à-dire, lorsque l'on pose une question et qu'on cherche à y répondre, il faut comprendre par rapport à l'objectif, par rapport au cahier des charges, pourquoi est-ce qu'on nous pose cette question en lien avec la discussion qu'on a eue à l'instant. À chaque fois, être en mesure, à travers la rédaction de sa réponse à la question, d'expliquer la méthode que l'on utilise pour répondre à telle question. C'est ça la difficulté. C'est toujours quelle méthode on utilise pour répondre à la question et comment est-ce qu'on rédige la démarche que l'on applique.
Grégoire Reca, vous avez potassé un peu l'épreuve. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment vous l'analysez cette épreuve et quelles sont les clés pour la réussir?
Alors, toujours par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a énormément en fait de questions qui font appel à des données qui ont été données précédemment ou voire un petit peu plus loin dans l'énoncé, à savoir il y a à la fin un document technique dans lequel il y a un certain nombre de schémas et de données et d'explications sur un certain nombre d'ensembles du système qui nous sont donnés, tout à fait. Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, voir en fait le système dans sa globalité, c'est très important, et surtout pour bien réussir cette épreuve, je pense qu'il faut qu'il y a des questions parfois où il y a quelque chose qui nous manque.
Par exemple
Une question concernant, je crois, le temps nécessaire pour que le système gère en fait les données qui lui sont envoyées pour qu'il puisse réagir à temps. Les données qui nous étaient données justement pour qui étaient fournies, voilà, tout à fait, pour pouvoir répondre à cette question étaient en fait dans le document technique à la fin. Et par exemple, si dans la précipitation du sujet, la fatigue du sujet, on ne voit pas ça, on peut être tenté de passer à la question parce qu'on se dit il y a quelque chose qui nous manque et pas du tout.
D'où l'importance, le départ, de bien lire, de bien aller jusqu'au bout, de bien lire l'intégralité des documents, de prendre quelques notes brouillons pour pouvoir se retrouver dans les différents documents et pour pas avoir à chercher de manière un peu pénible. Un mot, peut-être, François Stéphane, comment vous l'avez lu, cette épreuve? On va mettre évidemment l'épreuve et le corriger sur le fil Twitter de l'émission. Hervé Rioux vous dit, quels sont les pièges, par exemple, sur ce sujet qu'il faut savoir éviter, que vous auriez identifié?
Ah, les pièges, c'est de se lancer dans une question tête baissée et de pas comprendre la finalité de la question que l'on cherche, c'est-à-dire prendre du temps pour bien comprendre. Typiquement, je pense à des questions qui nous amenaient à étudier le schéma hydraulique du système. Si on prend pas du temps pour un peu étudier les différents schémas que l'on nous fournit dans le document réponse, eh bien, on peut passer complètement à côté de la question. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre du recul lorsque l'on aborde une question. Bien avoir en tête, comme le disait mon collègue là, que bien avoir en tête l'ensemble des données numériques et d'informations qui nous sont fournies avant d'aborder la question. Si on y va tête baissée, on n'y arrive pas, on comprend pas la finalité.
À quel endroit, à votre avis, aux uns ou aux autres, à tous les trois, on peut marquer des points forts? Quels sont vraiment les endroits où on peut être sûr de marquer des points et de montrer que on a bien saisi l'intégralité du problème, à votre avis? Guillaume Mirekia, François Stéphane ou
typiquement, oui, le schéma hydraulique, en fait, ça permet de... Le schéma nous est donné, c'est vraiment, en fait, pour voir l'élève a vraiment compris le système. J'aurais tendance à dire ça. Je pense que c'est un bon moyen de montrer qu'on a compris comment marchait le système, puisque, en fait, c'est un schéma sur lequel, en fait, on doit dessiner les flux de fluide, en fait, qui circulent dans le système à la rentrée ou à la sortie de la tige. Et typiquement sur cette question, on peut très bien voir si l'élève a compris de quoi il retourne ou pas, en fait.
Averio, sur les points forts.
Bon, déjà, il ne faut pas louper les toutes premières questions. Comme je disais tout à l'heure, ce sont des questions de contexte qui sont là pour mettre en facilité le candidat. Il faut sauter sur l'occasion de ces premières questions pour marquer des points. Après, ça dépend dans quel champ des sciences de l'ingénieur on est à l'aise. Si on est à l'aise en mécanique, il y a ici des questions qui sont plus liées à la mécanique. Si on est à l'aise dans des questions énergétiques, il y a des questions qui sont liées à l'énergétique. Il y a beaucoup de questions, d'ailleurs, qui consistent à analyser des résultats de simulation ou des résultats d'expérimentation qui sont déjà fournis. Donc là, c'est intéressant pour ceux qui ont des difficultés calculatoires, mais qui ont vraiment une bonne approche documentaire du problème. Donc il suffit simplement de lire avec un peu d'attention les informations qui sont fournies sur ces graphiques pour répondre tout simplement à la question. Et puis, il y a effectivement cette question qui a été évoquée par rapport à la vitesse de transfert de l'information des capteurs au calculateur, qui là nécessitait de prendre en compte des informations fournies dans le document technique. Là, il faut effectivement passer du temps pour bien avoir tous les éléments à notre disposition pour pas se tromper dans la réponse à cette question.
Ce que vous dites une fois de plus, c'est que même si on est un peu faible sur la partie calcul, mathématiques, on peut tout à fait réussir à sortir de sujet à peu près au la main malgré tout.
Ah mais absolument, puisqu'il y a tout un tas de questions qui ne nécessitent pas une grosse technique calculatoire pour y être répondu. Il y a des analyses de documents graphiques, il y a des questions de bon sens. Hein. La première question, c'est expliquer en quoi ce système satisfait l'utilisation dans un réseau urbain de proximité. Bon là, c'est du BSP, hein, du bon sens pratique que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, il y a des éléments de logique technologique. C'est-à-dire, je reviens sur cette histoire de schéma hydraulique, où là, si on a une tête bien faite, si on ressent un peu les choses technologiquement, on comprend comment ça marche, et puis on peut y répondre, alors même qu'il n'y a derrière aucune technique de calcul.
François Stéphane.
Oui, on retrouve dans le sujet les quatre compétences qui avaient été citées précédemment. Hein, c'est analyser, modéliser, expérimenter, communiquer. Et il y a à la fois l'analyse et la partie communication qui peut être traitée sans forcément avoir des compétences ou des connaissances sur telle ou telle discipline, mais simplement en lisant correctement le sujet, en essayant d'analyser le système qui nous est proposé, et voilà, et en prenant le temps de le faire quelque part.
Pour finir, il nous reste quelques minutes avant la conclusion de cette émission. Alors, je me retourne vers notre public du lycée Le Corbusier à Aubervilliers. Des questions à nos invités sur les SI, sur l'épreuve en général, sur la méthodologie, sur les débouchés. Jeune homme, bonjour.
Bonjour, je m'appelle Marez. J'ai une question pour Monsieur François. Mm-hmm. Vous avez dit il fallait expérimenter les maths pour être fort. Mais si on a 5 de moyenne, vous me conseillez d'aller en SP maths l'année prochaine pour être meilleur ou pas?
Alors, est-ce qu'il faut changer de SP en cours de route?
Non, pas forcément aller en SP maths, mais je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Il faut reprendre les notions de base progressivement, méthodologiquement, et je crois qu'on peut y arriver. Nous, on a des étudiants qui sont plus faibles en maths, hein, qui arrivent dans des études d'ingénieurs, qui sont meilleurs en physique, en sciences de l'ingénieur. Et finalement, ben, ils mettent l'accent sur les maths et puis ils finissent par maîtriser ces outils. Donc, il y a pas de fatalité, il faut s'entraîner.
Pas de fatalité, même si on a 5 en maths en première. Jeune homme, une autre question.
Donc, bonjour.
Bonjour.
Je m'appelle Ahmad.
Bonjour Ahmad.
Je me demandais comment on peut gérer son temps durant l'épreuve de SI.
Question centrale, comment on gère son temps? Quel temps on passe sur le brouillon? À partir de quel moment on va au propre? C'est une question qui vaut pour à peu près toutes les épreuves du bac scientifique. Averiou.
Je dirais que l'épreuve dure 4 heures. 4 heures, c'est à la fois long et à la fois court. Mais dans 4 heures, on a largement le temps d'aborder l'épreuve, comme on l'expliquait tout à l'heure, à savoir commencer à lire l'introduction, survoler l'ensemble de l'épreuve et puis voir quelles sont les différentes parties qui correspondent à tel ou tel champ disciplinaire, ce qui nous permettra ultérieurement de s'y focaliser si jamais on se sent plus à l'aise dans tel ou tel sujet. Bon, j'ai envie de dire néanmoins que lorsque on a 4 heures devant nous, bon, au-delà du fait qu'on est amené à lire tout un tas d'informations, ça veut dire qu'il nous reste entre 3h et 3h30. Bon, faut faire le ratio, hein. Si vous avez 20 questions sur 2 à 3 heures, vous voyez à peu près le nombre de minutes qu'il vous est nécessaire à peu près de consacrer à chaque question. Et si on est arrivé à 10 minutes par question et qu'on se rend compte qu'au bout de 20 minutes, clairement, il n'y a rien qui débouche, bon là, je conseille d'aborder la question d'après. Hein.
Puis il faut redire que dans le cas inverse, si tout se passe extraordinairement bien,
alors,
et qu'on
si
a
tout
fini
se passe bien,
20 minutes avant la fin ou une demi-heure avant la fin,
eh ben, il ne faut surtout pas sortir de la quitter salle. L'épreuve, voilà. Ne surtout pas sortir de la salle. Il faut au contraire en profiter pour vérifier tout ce que l'on a fait, vérifier les fameux ordres de grandeur de tout à l'heure, vérifier l'homogénéité des calculs.
Relire pour éviter les fautes d'orthographe et les fautes de syntaxe.
Se relire pour éviter les fautes d'orthographe et les fautes de syntaxe, pour peut-être améliorer ses qualités rédactionnelles et aussi améliorer la présentation de la copie. Ça, c'est extrêmement important, j'insiste, hein, faire en sorte que dans sa rédaction, chaque question soit correctement rédigée, que les questions soient séparées au moins visuellement dans sa copie, que les résultats soient encadrés. Il y a toujours des points à améliorer pour viser le 20 sur 20.
Carrément, le 20 sur 20. Encore une question, jeune homme, bonjour.
Bonjour, je m'appelle Riwan.
Bonjour Riwan.
Je voudrais savoir si par exemple en première on n'a pas été super fort, est-ce qu'on pourrait avoir une marge de progression pendant le terminal?
Alors si ça se passe pas très très bien en première, comment est-ce qu'on progresse pour arriver et viser le 20 sur 20 au bac en
terminale? Alors déjà c'est largement possible, j'ai des milliers d'exemples d'élèves en première, en terminale et même derrière en classe préparatoire qui montrent qu'au cours de l'année il y a eu un jour une révélation, quelque chose qui a été un élément débloquant pour la compréhension de plein de choses qui fait que après tout devient facile, donc il faut juste y croire et continuer à travailler. Si néanmoins jusqu'à la fin de l'année il y a quelque chose qui est franchement bloquant, là il faut se faire aider par ses petits copains, c'est-à-dire que à travers les cours qui ont été faits, si vraiment on comprend pas, c'est sans doute que la notion est expliquée d'une manière qui ne correspond pas à notre manière de voir les choses. Donc là, il faut peut-être changer d'approche pour aborder telle ou telle notion. Donc là, il faut, pareil, s'entraider. L'entraide est un élément extrêmement important dans l'éducation pour qu'une personne puisse nous expliquer avec ses mots, qui sont peut-être plus proches des nôtres, une notion difficile.
Et puis pour rappeler des éléments du béaba de la méthodologie de l'apprentissage, raconter quelque chose à quelqu'un, partir quelqu'un qui n'est pas au courant, essayer de reformuler dans ses mots un savoir, une connaissance, un cours, ça aide vraiment à consolider la mémorisation.
Bien sûr, je rajoute du reste que si on est capable d'expliquer à un de ses copains une notion difficile, c'est sans doute qu'on la maîtrise extrêmement bien. Donc là aussi c'est formateur d'expliquer à ses copains quelque chose de difficile, très formateur.
Un mot, Grégoire Réca, sur votre épreuve. Il y a 3 ans, vous avez géré le temps, vous êtes parti au bout de 4 heures, vous avez pas eu de problème. Quelle est la difficulté principale que vous avez rencontrée pendant votre épreuve?
La difficulté principale, justement, que j'avais rencontrée, c'était, je crois que c'était en fait le fait que les informations étaient assez éparses, qu'il fallait les chercher un petit peu partout tout au long du sujet. Et de ce que je me souviens, c'était ça, en fait, ce qui m'avait principalement marqué dans ce sujet. Et jusqu'au bout, je crois, jusqu'à la dernière question. La dernière question était une question plutôt de synthèse, revenir sur le cahier des charges, essayer d'expliquer ce qui allait, ce qui allait pas au vu des résultats qu'on avait eu précédemment. Essayer un peu de faire une conclusion sur le système. Là, comme dans le sujet qui nous était présenté, à la fin, on demande de faire une conclusion globale sur ce système. Est-ce qu'il respecte les normes de pollution? Est-ce qu'il serait utilisable par les services de propreté de la ville, etc. Et voilà, ce qui m'avait principalement marqué dans ce sujet, c'était le fait qu'il y avait beaucoup d'informations, mais qu'une fois qu'on les avait à peu près tout en vue, ça se déroulait globalement.
Pour conclure, puisqu'on arrive au terme de cette émission, juste un petit conseil peut-être très rapide pour finir ce tour de table. Par exemple, notamment sur la conclusion, garder du temps pour la conclusion, voilà. Un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, combien, Verriou?
La conclusion, effectivement, c'est une question que l'on peut aborder alors même qu'on n'a pas traité toutes les questions qui précèdent, donc c'est un moyen de gagner facilement des points. Mais la difficulté qu'il y a dans les conclusions, c'est de se situer dans le travers qui consiste à croire que dans la vie tout marche bien. Et pour le coup, les questions et les réponses qu'on attend parfois sont négatives. Et là, en l'occurrence, dans la fameuse question finale de ce sujet, où on demandait au candidat de dire si le scooter vérifiait 3 performances, eh bien, il y en a une qui n'était pas vérifiée. Et ça, souvent, c'est assez perturbateur parce que quand on est élève, on a l'impression que tout marche bien dans la vie. Et là, pour le coup, non, tout ne marche pas bien. Et c'est justement l'occasion peut-être d'améliorer le système quand cela ne marche pas bien.
Un conseil en 2 mots, Grégoire Réca.
Un dernier conseil, c'est qu'il ne faut pas, dans les révisions en tout cas, ne pas s'y prendre à la dernière minute, même si, après, je ne veux pas dire qu'il faut arrêter de travailler avant le bac, bien au contraire, mais ne pas s'y prendre à la dernière minute, essayer de travailler le plus régulièrement possible, voilà.
Eh bien, merci beaucoup. Ce seront les mots de la fin pour réussir de manière certaine, maintenant que vous avez écouté cette émission, votre épreuve de SI au bac 2017. Merci Hervé Rioux, merci François Stéphan, merci Grégoire Réca, merci aux élèves du lycée Le Corbusier à Aubervilliers et à leurs professeurs. C'était la dernière émission de révision du bac de cette semaine. Vous pouvez retrouver toutes les autres émissions, les maths, la SVT, la physique chimie, en podcast sur le site franceculture.fr. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Mathieu Lefrançois, Céline Lozen, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Elisabeth Miro, à la réalisation et Sébastien Royal, à la technique. Demain, on reprend le fil de l'actualité des sciences et de la recherche pour notre table ronde hebdomadaire. On parlera entre autres de la cyberattaque géante qui vient de se produire, de la maladie de Huntington et des liens entre virus et génétique. Tout de suite, c'est le dernier LSD de la semaine, LSD pour la série documentaire qui est consacrée cette semaine au féminisme en Pologne, une série de Johanna Grudzinska, Nathalie Batus et Perrine Cavant. On se retrouve demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.